Voilà, Seigneur Esprit Saint, apporte-nous la joie de Jésus, la joie de sa présence parmi nous. Voilà, merci Seigneur Esprit Saint de nous libérer de tout ce qui n'est pas de toi, de libérer nos cœurs. Viens libérer les cœurs de toutes les personnes qui sont dans cette assemblée pour être vraiment ouverts à la présence de Jésus, à sa parole. Vous savez que nous avons chanté en langue tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui chantent en langue? Vous pouvez lever le doigt pour voir s'il y en a qui chantent en langue. Un petit peu. Pas beaucoup. Voilà, ben demandez au Seigneur ce don du chant en langue. Alors certains se disent, mais c'est quoi le chant en langue? Le chant en langue, c'est simplement un chant que l'Esprit-Saint nous inspire. Donc il n'y a pas de mélodie particulière, il n'y a pas de parole particulière. C'est pas se parler en langue dont parle saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens et qui est un don de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas un don absolument nécessaire, mais c'est un don où Dieu vient lui-même prier, parler, chanter à travers nos paroles, puisque Dieu est ineffable. Les paroles qu'il nous donne pour le chanter sont aussi ineffables. Alors nous allons commencer par écouter la parole de Dieu dans l'Évangile de saint Luc, au chapitre 5, versets 27 à 32. Après cela, il sortit, donc Jésus, il sortit et il remarqua un publicain, un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Alors déjà, ce que je trouve fabuleux dans cette histoire, c'est que Dieu... Notre Dieu s'est incarné, donc il est allé marcher sur nos chemins, pour aller rencontrer un beau jour ce brave Lévi assis à sa table. Rendez compte ? Dieu qui est ineffable, transcendant à toute chose, il s'est incarné, il a pris notre chair, entre autres, pour aller rencontrer Lévi qui est assis à sa table. Enfin, le chemin est quand même dingue entre Dieu et Lévi assis à sa table, qui est en train de compter ses sous. C'est dingue. Ce chemin de Dieu qui va jusqu'à lui. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ne va pas à lui, je dirais, entouré de sa cohorte d'anges. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire une apparition à Lévi avec une cohorte d'anges et Lévi aurait été ébloui. Non, il est venu très simplement, comme un juif ordinaire. Simplement, quand Jésus est arrivé à ce brave Lévi, donc je précise que Lévi... À l'époque, ce n'était pas considéré comme la crème, puisque c'était un collecteur d'impôts. Donc pour les religieux, c'était les collecteurs d'impôts qui collaboraient plus ou moins avec les Romains, qui se mettaient plein d'argent dans les poches au passage. Ils n'étaient pas en odeur de sainteté, si j'ose dire. Donc on ne les aimait pas trop. Et Lévi, certainement, vivait bien, mais en même temps, c'était aussi probablement quelqu'un que le peuple n'aimait pas beaucoup. Donc quand Jésus... rencontre Lévi, assis à son bureau de publicain, en train peut-être de compter ses sous, il lui dit simplement « Suis-moi ». Et, abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Et c'est presque incroyable, cette histoire. Jésus lui dit « Suis-moi », il le suit immédiatement. On se demande, mais il y a quand même quelque chose qu'on a peut-être raté dans cette histoire. Parce que, moi, je ne sais pas, mais je suis assis à mon bureau, quelqu'un me dit « Suis-moi », je ne connais pas, je vais commencer par lui dire, je ne sais pas, où vas-tu ? Ou qui es-tu ? Ou que me veux-tu ? Enfin, on va poser une question. Peut-être même qu'on lui dira, on ne lui répondra même pas. Mais là, Jésus dit, suis-moi, cet homme se lève. Et non seulement il se lève, mais il abandonne tout. Donc ça veut dire qu'il a compris ce que Jésus lui a dit. Il a déjà compris quelque chose de ce que Jésus lui a dit en lui disant, suis-moi. Et il se met à le suivre. Donc à travers cette simple phrase, enfin ce simple récit très sobre, on s'aperçoit qu'il doit y avoir beaucoup d'implicites derrière qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut supposer. Alors qu'est-ce qu'on peut supposer ? On peut supposer que Lévi connaissait quand même déjà Jésus. Il était connu dans la région, il faisait des miracles. Donc certainement, il le connaissait. Certainement, il en avait déjà parlé avec ses collègues. Certains disaient « c'est un dingue », d'autres disaient « c'est un prophète ». Vous savez, un peu comme quand Jésus demande à ses apôtres « pour les hommes, qui suis-je ?» Bon. Donc toutes ces conversations, il les a entendues. Et puis lui, il a fait son propre chemin par rapport à ça. Et il a tellement fait son propre chemin que quand Jésus arrive devant lui et lui dit « suis-moi », il le suit. Peut-être que si on avait dit à Lévi d'aller suivre Jésus comme ça, quelqu'un l'aurait dit « allez, suis-le cet homme », il ne l'aurait jamais suivi. Mais parce que Jésus lui dit « suis-moi », et que dans cette parole, il y a certainement quelque chose d'une autorité divine, Lévi est touché au cœur et il suit Jésus, et non seulement il le suit, mais il abandonne tout d'un coup, alors qu'il n'a rien prémédité. Je veux dire, il y a peut-être 5 minutes, il pensait encore à ses sous et à je ne sais pas quoi. Un retournement de situation absolu pour Lévi. Et en même temps, on peut supposer que si tout a changé dans la vie de Lévi, il n'a pas complètement changé lui-même non plus. Enfin, je veux dire, ses mauvaises habitudes, son amour de l'argent, je ne sais pas, tout ça, ça n'a pas disparu en 30 secondes avec le « suis-moi » de Jésus. Donc on peut penser qu'à la fois, il abandonne tout, et puis qu'en même temps, il commence un chemin où il va devoir effectivement tout abandonner progressivement. En tout cas, pour l'instant, Lévi est dans une joie extraordinaire, parce que la suite du récit nous dit qu'il est tellement dans la joie qu'il offre un grand festin, bon, ben, on voit qu'il a de l'argent, un grand festin dans sa maison à tous ses amis. Et c'est quoi? C'est qui les amis de Lévi? Ben, c'est un peu les gens comme lui, c'est les publicains. Parce que comme les publicains, les collecteurs d'impôts sont pas trop aimés des autres, ben, certainement ils sont copains entre eux, si j'ose dire. Au moins, il y a quelques personnes qui les aiment, c'est les autres collecteurs d'impôts. Mais certainement pas les pharisiens, et les scribes, qui eux, s'estimant très religieux, ne fréquentent pas ces gens-là, comme on dit. Hein, parfois on dit, moi ces gens-là, je ne les fréquente pas. Ben voilà, ben, de Lévi, il disait certainement, moi ces gens-là, je ne les fréquente pas. Donc c'est extraordinaire. On voit quelque chose qui ressemble aussi à la joie que Lazare a vécue. Quand Jésus appelle Lazare, il y a une très grande joie, et puis il donne tout son argent. Quand Jésus nous appelle, il y a une grande joie. Et c'est quoi cette joie? Quel est le contenu de cette joie? Je pense que Lévi, quelque part, quand Jésus l'appelle, sa vie prend enfin un sens. Il était là à compter ses sous, bon, c'est très bien de compter ses sous, mais finalement, ça ne donne pas de sens à sa vie. Et puis, voilà que Jésus l'appelle pour une destinée éternelle. Ça donne un sens à sa vie, et puis ça libère son cœur, et puis quelque part, il a envie d'être fou un peu, Lévi, il a envie de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Voilà. Et Jésus l'appelle, et pour lui, c'est une porte qui s'ouvre pour faire des choses extraordinaires avec Jésus. Et non seulement c'est une porte qui s'ouvre pour lui, mais il veut l'ouvrir pour les autres. Ça, c'est le signe de la joie, de la vraie joie. La différence d'ailleurs entre la joie et le plaisir. Quand j'ai du plaisir, je mange du chocolat, bon, très bien, je suis très content de manger du chocolat, mais je n'ai pas forcément envie de partager avec les autres. Ça reste du plaisir. Mais la joie, c'est vraiment ce qui se communique. Quand on est dans la joie, on a envie que tout le monde soit dans la joie. On a envie de, si la joie est exubérante, on a envie de gueuler. On veut plus que, voilà, on a envie que cette joie se communique à tous. Et Jésus est heureux de rencontrer non seulement Lévi, mais tous ces hommes pécheurs. Parce que ce sont des vrais pécheurs, tous ceux qui viennent avec Jésus. Là, ce n'est pas des gens qui ont fait semblant de faire des péchés. C'est des gens qui sont pécheurs, qui ont volé d'autres personnes, qui ont peut-être fait des scandales. Je ne sais pas s'il y a eu des meurtriers parmi ceux-là, mais c'est possible. Vraiment des gens pécheurs. Pas des demi-pécheurs, des quarts de pécheurs, des tiers de pécheurs. Des vrais pécheurs, des vrais de vrais. Et alors, les autres, les pharisiens, les scribes, qui s'estiment juste peut-être un quart de pécheurs, ne supportent pas cette attitude de Jésus, cette ouverture du cœur extraordinaire que le pape François essaie cette année de nous faire retrouver à travers cette année de la miséricorde. Cette ouverture extraordinaire du cœur de Jésus qui est capable d'aimer quelqu'un indépendamment de ce qu'il a fait pour lui ouvrir les bras de sa miséricorde, pour le prendre dans ses bras, pour lui dire de tout son cœur qu'il l'aime. Évidemment, là, il ne peut pas le faire avec ses juifs, parce qu'il y a certains codes à respecter. Mais si Jésus avait pu, il les aurait tous embrassés. Il les aurait pris dans ses bras. Et Jésus répond à ceux qui critiquent son attitude, « Je ne suis pas venu appeler les gens en bonne santé, mais les malades. » Mais est-ce qu'il y a des gens en bonne santé sur cette terre? Je ne pense pas. Personne n'est en bonne santé. On est tous des malades. Simplement, il y en a ceux qui se savent malades et ceux qui ne savent pas malades. Alors, quand on ne sait pas qu'on est malade, on ne va pas chez le médecin. Quand on sait qu'on est malade, et si c'est grave, on va chez le médecin. Eh bien, Jésus est venu appeler ceux qui se reconnaissent malades, donc qui ont besoin du vrai médecin qui est Jésus. Alors, en ce temps de carême, où le Seigneur nous invite à avancer avec lui, la première chose à faire, c'est pas tellement de faire des efforts. Bien sûr, le Seigneur va nous demander des actes de conversion. Mais la première chose à faire dans ce carême, c'est de dire, Seigneur, je suis malade. C'est toi qui vas me guérir pendant ce temps. Je suis malade. Alors pour que le Seigneur me guérisse, il faut aussi prendre du temps avec lui dans la prière. Il faut lire sa parole. Il faut venir auprès du médecin. Mais la première chose à faire dans ce carême, c'est de dire à Jésus, je suis malade. Et malade de quoi ? Je suis malade de ne pas pouvoir aimer. J'ai besoin d'être sauvé. Alors on dit toujours, Jésus vient nous sauver, mais nous sauver de quoi ? On ne sait jamais trop. De quoi vient nous sauver Jésus ? De nos péchés. Mais il vient surtout nous sauver de ce à quoi conduisent nos péchés, c'est-à-dire en enfer, là où nous sommes séparés de Dieu. Donc Jésus vient nous donner son amour éternel. Voilà ce qu'il veut nous dire dans cette prière. Et maintenant, j'appelle Marie-Madeleine à venir avec moi pour que nous puissions entendre son témoignage. Voilà, puis je suis heureux de saluer au passage Jérôme Beau qui est parmi nous. Bonjour Monseigneur, merci d'être parmi nous, la présence du Christ, pour nous aider à vivre cette prière. Alors, Marie-Madeleine, je la présente un petit peu. Marie-Madeleine, elle est orthodoxe et elle a été baptisée en 2007. Donc elle m'a demandé de donner son témoignage parce qu'elle est un petit peu timide, puis c'est un peu impressionnant de parler devant tant de personnes. Mais ensuite, elle vous dira un petit mot pour confirmer eh bien, que ce que j'ai dit, c'est vrai, et pour bénir le Seigneur. Alors, je lis son témoignage. « Ce soir-là, j'étais venu demander une guérison au Seigneur pour un sérieux problème de santé découvert quelques mois plus tôt. Si je ne me trompe pas, la première parole de connaissance donnée était celle-ci. Le Seigneur guérit une personne souffrant de sérieux troubles du rythme cardiaque. » Donc, j'ai oublié de dire que Marie-Madeleine est venue à la prière des malades du 17 septembre 2015. Donc le Seigneur guérit une personne souffrant de sérieux troubles du rythme cardiaque. À ce moment-là, j'ai pensé que ces paroles pouvaient me concerner sans y croire vraiment. Je souffrais en effet depuis mon enfance d'un trouble sévère du rythme cardiaque, invalidant, puisque celui-ci m'empêchait de courir, de monter une côte, de gravir des escaliers sans être au bord du malaise. Tout effort provoquait des salves d'extrasystole groupées, pouvant provoquer un malaise. Il m'était souvent arrivé de demander cette guérison au Seigneur, mais pas ce soir-là. Ce soir-là, je demandais autre chose. Je suis resté là, à la prière, et j'étais transporté d'amour et de joie par la ferveur, les chants magnifiques, la prière palpable. Puis lorsque c'est terminé, je suis parti pour rentrer chez moi. Je n'habite pas à Paris. Il me fallait prendre un premier autobus. Je n'étais pas encore arrivé jusqu'à l'abribus quand j'aperçois l'autobus arriver. C'est là où il y a la providence divine, parce que Dieu calcule tout, vous allez voir. Donc le bus, il est arrivé juste au bon moment. Je ne sais pourquoi, je me suis mis à courir pour ne pas le rater. Je ne cours jamais, même dans ce genre de situation, à cause de ce trouble, justement. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que je n'étais pas essoufflé ni au bord du malaise lorsque je suis tombé dans le bus. J'ai pensé, Seigneur, m'as-tu guéri ? J'ai laissé passer plusieurs jours, plusieurs semaines, pour être certaine de la guérison. Cela fait maintenant, depuis le 17 septembre que je suis guéri, j'ai monté des côtes incroyables pour le vérifier. Désormais, il n'y a plus de doute, le Seigneur, dans son immense amour, m'a guéri. Amen.
Merci Seigneur. La guérison que tu m'as accordée, je t'aime et j'ai confiance en toi. Abandonnez-vous, ne désespérez jamais, car il est là et il nous aime d'un amour inimaginable. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
Merci beaucoup, Marie-Madeleine, pour votre témoignage. Voilà, eh bien, le Seigneur est réellement parmi nous. Je vous ai donné un témoignage, comme l'heure avance, on va maintenant... Accueillir le Seigneur lui-même, c'est le cœur de notre prière, c'est Jésus parmi nous, l'Emmanuel, Jésus avec nous. Nous allons l'accueillir dans le Saint-Sacrement, le pain qui a été consacré à la messe par le prêtre, qui est devenu le corps du Christ. Et c'est le corps du Christ, comme le corps de cet homme d'il y a 2000 ans, le Verbe fait chair, Jésus est au milieu de nous, donc il y a simplement pour nous à ouvrir notre cœur. Et si on n'y arrive pas, on prie la Vierge Marie, on dit à la Vierge Marie, Marie, bon, j'ai pas une énorme foi, donc viens ouvrir mon cœur à Jésus, ton fils bien-aimé. Amen.